Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez votre programme en français sur la radio SBS France. Le journal. À la une de l'actualité de ce mardi 26 août 2025, l'Australie lève le ton face aux droits de douane américains. Australia Post a décidé de suspendre l'expédition des colis. L'opposition dénonce ce choix. Les États-Unis, eux, s'attaquent à la Chine et menacent de nouvelles surtaxes à hauteur de 200%. Cette fois, c'est l'exportation d'aimants qui pose problème. À Gaza, 20 morts, dont 5 journalistes dans les frappes sur un hôpital. Le Premier ministre israélien déplore un accident tragique. Et en France, François Bayrou en sursis. Le Premier ministre va se soumettre à un vote de confiance des députés, un sacré coup de poker qui aura lieu le 8 septembre. Australia Post annonce ce matin la suspension temporaire de certains envois de colis à destination des États-Unis et de Porto Rico. Une décision qui prend effet dès aujourd'hui en réaction aux nouvelles règles américaines sur les droits de douane et les tarifs d'importation. Les courriers ordinaires, les documents, les cadeaux d'une valeur inférieure à 100 $ américains ne sont pas concernés. La Poste australienne précise que cette mesure s'aligne sur celle prise par d'autres opérateurs postaux dans le monde et elle affirme travailler avec un prestataire reconnu par les douanes américaines afin de trouver une solution rapide au problème. Levée de bouclier de la part de l'opposition, on le disait en titre, qui accuse le gouvernement non seulement de maltraiter à nouveau sa relation avec les États-Unis, mais aussi de faire du mal aux petites entreprises. On écoute Tim Wilson, il est le porte-parole de l'opposition pour les petites entreprises.
It raises serious questions ultimately about the claims that the Albanese government has the relationship between Australia and the United States sorted. So let's hope the stability and calm prevails, that we get an outcome, because small businesses will be the ones who pay the price for a tariff on declines in the volumes of small packages going through to the United States.
Et dans le même temps, Australia Post annonce le recrutement de plus de 3 500 travailleurs saisonniers pour faire face à la période des fêtes. L'entreprise propose une rémunération allant jusqu'à 38 $ de l'heure. L'an dernier, le service postal avait distribué près de 103 millions de colis dans les semaines précédant Noël. À partir d'aujourd'hui, les employés des petites entreprises ont légalement le droit d'ignorer appels, mails et messages professionnels en dehors de leurs horaires contractuels. C'est l'entrée en vigueur des lois sur le droit à la déconnexion pour les petites structures. Ces droits étaient déjà accordés, rappelez-vous, aux salariés des grandes entreprises depuis exactement un an. C'était le 26 août 2024. Et bien désormais, la loi s'applique aussi aux entreprises de 15 salariés et plus. Lyndon Burke, avocat spécialisé et associé fondateur du cabinet Burke Mongan Lawyers, rappelle que le droit à la déconnexion n'est qu'une des nombreuses réformes majeures du droit du travail en 2025.
Look, at the end of the day, these laws aren't to punish employers or reward employees. What they're there to do is to provide a work-life balance and stop employee burnout, because we're seeing that productivity is unfortunately falling in this country, and that is potentially because people can't disconnect.
Un groupe des principaux économistes australiens estime qu'un objectif de réduction des émissions plus ambitieux pourrait stimuler le PIB d'Australie de plusieurs dizaines de milliards de dollars et créer des dizaines de milliers d'emplois supplémentaires. Alors je m'explique plus précisément, c'est Deloitte Access Economics qui estime que si le gouvernement fédéral choisissait de réduire les émissions de 75% d'ici 2035 au lieu de 65%, eh bien le PIB, le produit intérieur brut, pourrait augmenter de 360%. 70 milliards de dollars et 69 000 emplois supplémentaires seraient créés. Les experts expliquent qu'un objectif plus ambitieux permettrait d'accélérer les investissements, de renforcer la compétitivité des exportations australiennes dans un monde en pleine décarbonisation. L'autorité sur le changement climatique examine actuellement, on le rappelle, sa recommandation au gouvernement sur l'objectif pour 2035 qui devrait se situer donc entre 65 et 75%. De son côté, le sénateur du Parti national Matt Canavan appelle à relancer le débat au sein de l'opposition fédérale sur l'objectif du zéro émission nette. Il compte utiliser la réunion conjointe des deux partis, Liberal et National, prévue aujourd'hui pour remettre la question sur la table. Selon lui, cet objectif avait été imposé par l'ancien Premier ministre Scott Morrison sans véritable discussion interne et il affirme que la stratégie de neutralité carbone donnerait beaucoup trop de pouvoir au gouvernement sur la vie des citoyens. Pour Matt Canavan, refuser d'ouvrir ce débat équivaut tout simplement à fuir le problème. Écoutez.
So it's like anything in life. When you've got an issue that's causing a bit of tension, there's a bit of disagreement, you might be arguing with your wife about what you should do. The best thing to do is talk it out. Don't sweep a difficult issue under the carpet. Don't think it will just go away. Actually tackle it, talk it out with everybody, come to a view and we can move on as a united force.
Ces déclarations du sénateur Canavan interviennent alors que se poursuit le débat sur le futur objectif de réduction des émissions pour 2035. On vient de le dire à l'instant, le gouvernement doit dévoiler ces chiffres dans les prochaines semaines. Toujours sur le sujet du climat, le ministre fédéral de l'Environnement, Murray Watt, assure que les Australiens n'auront pas à attendre les réformes accélérées de l'environnement pour obtenir des autorisations plus rapides de construction de logements. À la suite du sommet économique de Canberra la semaine dernière, le gouvernement a promis d'accélérer ces réformes et selon Murray Watt, les discussions ont montré un large soutien en faveur des protections environnementales renforcées, de procédures d'approbation ou de rejet plus rapides, plus simples, ainsi que d'une plus grande transparence dans la réglementation. Le ministre précise que le gouvernement fera le maximum avant même la présentation du projet de loi au Parlement, attendu d'ici à la fin de l'année.
There are changes that we can make before the laws get changed, and then there, of course, are a whole range of changes that can be made under the reforms. What we're trying to do before the laws get changed is prioritise our resources so that we are focusing more on housing approvals and getting them done much more quickly.
Retour à l'international et le président américain Donald Trump menace de relever massivement les droits de douane contre la Chine, plus de 100% si Pékin ne coopère pas sur l'accès aux aimants en terres rares, produits sur lesquels la Chine dispose d'un quasi-monopole. La Chine est en effet le premier producteur mondial de terres rares qui permettent notamment de fabriquer des aimants essentiels à l'industrie automobile, l'électronique ou encore l'armement. Donald Trump insiste, les aimants sont selon lui non négociables.
They have to give us magnets. If they don't give us magnets, then we have to charge them 200% tariff or something, you know. So for it'll take us probably a year to have them. We're heavy into the world of magnets now, only from a national security standpoint.
Ces déclarations de Donald Trump interviennent après une période d'accalmie pourtant entre les deux plus grandes économies mondiales. L'imposition de nouveaux tarifs douaniers ayant été repoussée au moins jusqu'en novembre, le président américain a par ailleurs annoncé son intention de se rendre en Chine peut-être d'ici la fin de l'année. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que son gouvernement veut obtenir au moins 1 milliard de dollars de ses alliés afin d'acheter des armes aux États-Unis. Cet achat doit se faire dans le cadre de l'initiative de l'OTAN baptisée Prioritized Ukraine Requirement List, mise en place après un accord entre le secrétaire général de l'Alliance, Mark Rutte, et le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche le mois dernier. Volodymyr Zelensky précise qu'il rencontrera l'envoyé spécial américain Keith Kellogg pour discuter d'une possible rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. Un tragique accident, c'est par ces mots que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qualifie la frappe qui a touché un hôpital de Gaza. Bilan 20 morts, dont 5 journalistes de Reuters, AP et Al Jazeera. Benjamin Netanyahou affirme que la guerre est menée contre le Hamas et rappelle, je cite, l'importance du travail des journalistes, du personnel médical et des civils. Il assure qu'une enquête approfondie a été ouverte par l'armée. L'incident, bien sûr, suscite une vague de condamnations à l'international, notamment de la part du porte-parole de l'ONU. On l'écoute.
The Secretary General recalls that civilians, including medical personnel and journalists, must be respected and protected at all times. He calls for a prompt, impartial investigation into these killings. He reiterates that medical personnel and journalists must be able to perform their essential duties without interference, without intimidation and without harm, and in full accordance with international humanitarian law.
Le Comité pour la protection des journalistes a condamné cette frappe, la qualifiant de partie d'un schéma délibéré d'attaque contre les professionnels des médias et demande une responsabilité internationale. L'organisation a recensé au moins 197 journalistes et travailleurs des médias tués pendant la guerre, 189 Palestiniens tués par Israël à Gaza. Et enfin, l'actualité française, c'est le Premier ministre en sursis, on le disait en titre. François Bayrou se soumettra à un vote de confiance dans deux semaines, un vote de confiance de l'Assemblée sur son projet de budget 2026. Les députés vont être interrogés sur le danger vital, je cite, que représente le surendettement du pays. Du RN à LFI, tous les partis d'opposition ont déjà dit leur intention de faire tomber le gouvernement. Valérie Gasse pour Radio France Internationale.
François Bayrou a pris tout le monde de court. Sa décision d'engager la responsabilité du gouvernement le 8 septembre vise à montrer aux Français à quel point l'heure est grave. Avant de faire cette annonce, le Premier ministre a passé une demi-heure à expliquer pourquoi la dette représente un danger immédiat qui concerne tous les Français. Chiffre choc à l'appui, je le cite, chaque heure depuis 20 ans a augmenté la dette de 12 millions d'euros. François Bayrou a aussi insisté sur le poids du remboursement de la dette qui représentera, si on ne fait rien, en 2029, 107 milliards d'euros. Une clarification nécessaire selon lui après un été où le débat s'est focalisé sur les mesures qu'il avait annoncées le 15 juillet dernier, notamment la suppression de 2 jours fériés. Alors pour recadrer les choses, le Premier ministre a décidé de devancer une éventuelle motion de censure promise par LFI et le RN et de demander un vote de confiance aux députés sur la question de l'enjeu de la dette. François Bayrou joue sa dernière carte.
Je me battrai bec et ongles et le gouvernement se battra en prenant tous les risques pour que ce danger soit évité par le seul moyen disponible qui est à mes yeux la prise de conscience des Français.
Une manière de dire « moi ou le chaos » et de sortir par le haut s'il n'obtient pas la majorité.
Allez, sans transition, on passe à la météo en Australie. Il y a des averses à Perth, il fait 16 degrés, 18 à Adelaide, 18 à Melbourne, 18 à Hobart, 20 à Canberra. Partout, il pleut. Du soleil à Sydney, 23 degrés, à Newcastle, 23 degrés également. Brisbane, des nuages, 24. Granby à Cairns, 29. Et des nuages à Darwin, il fait 32 degrés. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Mais restez sur SBS French. Notre émission continue jusqu'à 14h. Tout de suite, c'est le journal des sports. Il est présenté par Christophe Mallet.
Journal des sports et on va commencer avec du football et la Ligue 1 en France. C'était la deuxième journée du championnat. Les résultats, le Paris Saint-Germain a battu Angers sur le score de 1-0. Marseille bat le Paris FC, l'autre club de la capitale, sur le score de 5-2. Nice bat Auxerre sur le score de 3-1. Lyon bat Metz 3-0. Lorient bat Rennes 4-0. Strasbourg Nantes 1-0 pour les Strasbourgeois. Toulouse bat Brest sur le score de 2-0. Le Havre perd sur son terrain face à Lens. Lens, donc les Lensois qui gagnent face au Havre sur le score de 2-1. Et Lille qui bat Monaco sur le score de 1-0. Alors on va s'attarder quelque peu sur le cas lillois puisque, eh bien, on en a parlé, le retour d'Olivier Giroud. 2 matchs, 2 buts et la première victoire donc sous le maillot lillois pour le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. C'est un beau résultat, une belle histoire qui continue.
J'y ai cru jusqu'au bout et j'ai eu une ou deux opportunités avant, mais là j'ai laissé exploser toute ma grinta, c'est vrai, toute ma joie, ma rage de vaincre. Et c'était cool de partager ça avec le public. C'est un grand soulagement d'avoir pu gagner ce match, spécialement en début de saison. Il faut tout de suite prendre le train, monter dans le train comme on dit, et ne pas se faire distancer par les autres équipes. Donc niveau comptable, on est très content. On aurait pu être plus efficace, moi le premier, sur le pénalty. En tant que bon compétiteur qui se respecte, je suis un peu fâcheux contre moi, mais en tout cas, je vais pas cracher dans la soupe. Je suis très content d'avoir pu aider l'équipe ce soir et marquer ce but.
Olivier Giroud, donc, sur son retour, et son retour plutôt convaincant pour l'instant sous le maillot lillois, donc en Ligue 1. Une petite question par rapport à Olivier Giroud. Tout de suite, on se pose cette question. Et un retour sous les Bleus est-il possible ?
Non, non, comme je l'ai dit, ça fait plusieurs fois qu'on m'en parle, mais encore une fois, j'ai reçu un superbe hommage en mars de cette année. Et j'ai été très ému, très touché. Je me suis senti privilégié d'avoir cette soirée pour moi, en famille, avec mes enfants et mon épouse. Et donc, pour moi, c'est fini. Maintenant, jamais dire jamais, mais encore une fois, je sais qu'il y a de super talents qui arrivent derrière, des jeunes qui poussent. Et c'est à eux aussi de maintenant d'écrire leur histoire. J'ai fait ma part du boulot maintenant de faire leur.
Voilà donc Olivier Giroud, peut-être, peut-être pas, il ne faut jamais dire jamais, si on lit entre les lignes, peut-être ce sera possible, mais ce n'est pas une priorité pour le Lillois. Au classement, eh bien Lyon est en tête avec 6 points, ex aequo avec Toulouse, Paris Saint-Germain et Strasbourg, Lille est donc 5e avec 4 points en bas de classement, Le Havre est 16e avec 0 points, le Paris FC est 17e avec 0 points et Metz est 18e avec 0 points. Également, mais c'est le tout début du championnat, bien entendu. Allez, direction le cyclisme et la Vuelta, le Tour d'Espagne qui a débuté en Italie. Et oui, pour une fois, le Tour d'Espagne a débuté en dehors de ses frontières, donc en Italie. 3 jours passés sur le sol du Piémont et un retour après en Espagne. 3e étape et première victoire de David Gaudu, le Français. Une super victoire après une année, mais de galère, comme on ne peut pas imaginer. David Gaudu.
Ouais, c'est énorme. Je crois que j'ai pas gagné en World Tour depuis 2 ans, si je dis pas de bêtises. C'était face à un autre sprinter, entre guillemets, qui était Van Aert au Dauphiné. Donc là, j'ajoute Mats au CV, on va dire, donc c'est un beau clin d'œil. Ouais, elle fait vraiment du bien, que ce soit pour moi ou même pour l'équipe, parce que depuis le début de saison, ça a été la galère. J'ai galéré, j'ai eu des chutes, des ennuis qui ont des fois été de ma faute, des fois pas de ma faute, et l'équipe a toujours su me soutenir derrière, me relancer, me remettre sur les rails. Et voilà, je pense que c'est une juste récompense que de leur apporter cette victoire.
Il y a une émotion dingue, il y a une image ultra forte. Pourquoi?
Parce que comme j'ai dit, j'ai pas gagné un tour depuis 2 ans, et puis lever les bras, c'est ce qu'on peut avoir de plus beau dans le vélo, et je suis en galère depuis le début de l'année. Et ouais, je sais que j'ai des sensations, je sais au niveau auquel je peux évoluer, mais j'arrive pas à le montrer en fait. Et là, voilà, là j'ai réussi à le montrer hier, j'ai réussi à le montrer aujourd'hui. Donc voilà, je pense que notre Volta elle est réussie, et voilà, maintenant on va prendre chaque jour suffit sa peine, on va profiter. Il y a encore de belles étapes qui arrivent, un chrono par équipe qu'on a envie de bien faire. Donc voilà, chaque jour se fait sa peine, et on espère continuer et finir la Volta dans 3 semaines de la plus belle des manières. Mais voilà, on va d'abord profiter.
Pourquoi ça marche aussi bien entre vous et la Volta? Il y avait déjà eu des beaux épisodes.
Je sais pas, peut-être que je galère tellement avant qu'il y a quelque chose qui se passe, que je me dis non, j'ai de la hargne, j'ai quelque chose qui fait que ça marche, mais ouais, je sais pas. J'aime bien la Volta m'aime bien aussi peut-être, donc en tout cas voilà, c'est sûr que ça fait 3 éditions, j'ai 3 victoires d'étape, donc c'est plutôt un bon ratio.
On comprend sa joie donc dans cette victoire de David Gaudu dans cette 3e étape de la Vuelta. Le leader de la Vuelta, c'est Jonas Vingegaard.
Third place again. It's was a hard finish, a hard day, so happy to make it through
and to gain some time on GC.
Yeah, I mean David Gaudu, he took some time because of the bone injury, but then yeah, I don't know if I gained some time or not, but yeah, at least third on the stage, and then they gained 4 bonus seconds, so of course I'm happy with that.
Did you think that you were going to win?
No. Pedersen was going very strong, and I didn't really think that I could go past him, because yeah, I was suffering a lot in the wheel, and yeah, then in the last corner, David Gaudu dive bombed me and Pedersen. So yeah, it was quite a move, but that's cycling.
Jonas Vingegaard, donc le leader de la Vuelta. À noter également un Français de l'équipe Decathlon AG2R, Jordan Labrosse, qui finit 5e. On l'écoute.
Ouais, c'est sûr déjà que cette étape-là, je l'avais coché depuis le départ de la Vuelta. C'est vraiment une arrivée qui me correspond. L'équipe a fait un super boulot, je suis content que l'équipe ait fait ce boulot là pour moi. Donc c'est un top 5, c'est déjà ça, mais j'aurais bien aimé au moins être sur le podium ou plus, mais 5 c'est déjà bien, et l'équipe a fait un super boulot pour moi, je suis vraiment content de ma performance. Si on m'aurait dit que je faisais 5 aujourd'hui, j'aurais signé quand même. Mais c'est sûr qu'on joue la victoire, mais on préfère gagner que faire 5. Mais ça envisage de beaucoup pour la suite de la Vuelta, donc je suis hyper content pour la suite.
Il y aura d'autres occasions, c'est quoi les objectifs pour les prochaines étapes?
Pour les prochaines étapes, il y a demain déjà avec l'équipe et pourquoi pas aller prendre 2-3 échappées sur la Vuelta quoi.
Jordan Labrosse, donc 5e de la 3e étape de la Vuelta. Un mot de basket et l'Angola qui bat le Mali dans la finale de l'Afrobasket. L'Angola, 4e titre donc dans cette Afrobasket. Et le Mali qui aura fait un parcours superbe, mais donc une défaite 70-43 contre les super favoris de cette ligue d'Afrobasket. On écoute le Malien Mamadou Diarra.
Il y en avait 400 ou peut-être 500 Maliens qui étaient ici et ils avaient 12 000 fans ici. Donc avec leur pression et puis avec l'arbitrage aussi, c'était un peu difficile. Ouais, on est en train de progresser. On veut montrer aux gens, au monde, que le Mali, on revient au top. Inch'Allah, l'année prochaine, avec le World Cup, on va mieux faire.
Mamadou Diarra, le défenseur malien. On va parler de tennis maintenant pour conclure ce journal des sports. Et une victoire, mais une victoire difficile pour Novak Djokovic à l'US Open. Il bat l'américaine Tian. Alors c'est vrai que si on s'en tient au score, hein, 6-1, 7-6, 6-2, on peut se dire que sur le papier c'était plutôt facile. Mais non, c'était une victoire très difficile avec un physique un tout petit peu court, Djokovic. Ça va être intéressant de voir comment il se comporte dans ce tournoi. Novak Djokovic qui reste l'un des favoris, mais qui est physiquement clairement diminué à l'entrée de ce 4e grand chelem de la saison. Un autre résultat du côté féminin, la double vainqueur de Wimbledon, Petra Kvitova, a été éliminée au premier tour de l'US Open. Elle a été battue par la Française Diane Paris sur le score de 6-1, 6-0. Elle part à la retraite à 35 ans. On l'écoute.
I'm proud of many, many things. And what I'm going to miss, it will be the tennis itself. It's a beautiful sport. And everything you do on the court, it's your fault or your win. So that's, I think that's the beauty of the sport.
Petra Kvitova. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
C'était le début des années 20, le début de la fin sûrement. Toi tu courais toujours en vain, ouais tu aimais gagner ton temps. Dans les trop tard de tes 30 ans.
C'est Eddie De Preto avec cette chanson Love et Tendresse de l'album Crash Cœur qui est sorti en 2023. On marque une très courte pause, messieurs, dames. On se retrouve dans un instant avec la chronique politique. Patricia Meunier revient sur le nouveau système de prise en charge des enfants autistes en Australie. À tout de suite.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
C'est l'heure de parler politique avec Patricia Meunier, notre semaine donc de la politique. Et aujourd'hui, le ministre de la Santé australien, Mark Butler, a annoncé, c'était la semaine dernière, le lancement d'un nouveau programme de 2 milliards de dollars pour les enfants autistes. Thriving Kids, c'est le nom du programme, va ainsi alléger l'assurance invalidité nationale, NDIS, en prenant en charge les enfants atteints de troubles légers à modérés.
La nouvelle a créé un effet de surprise. Le gouvernement australien a annoncé mercredi dernier un nouveau programme pour les enfants autistes. Il n'y a pas eu de discussion préliminaire. Les parents et les défenseurs des droits des personnes autistes affirment n'en avoir eu connaissance qu'après coup. On écoute Jenny Karavolos, la coprésidente de l'Australian Autism Alliance.
Are a little bit perplexed. We definitely welcome that there is a commitment to children's development, but we haven't had any consultation, so a little bit concerned about what this actually means for autistic children and their families.
Le nouveau programme appelé Thriving Kids, annoncé par le ministre fédéral de la Santé, Mark Butler, propose de prendre en charge les enfants diagnostiqués avec un autisme caractérisé de léger à modéré. Ainsi, ces enfants ne seront plus soumis à l'assurance invalidité nationale australienne, NDIS. Le coût du nouveau programme est estimé à quelque 2 milliards de dollars. Selon Mark Butler, le nombre d'enfants avec un retard de développement ou un diagnostic d'autisme augmente à un rythme très élevé et non soutenable pour l'assurance NDIS.
I think most Australians will be alarmed to know that now, one out of every 10 six-year-olds are on the NDIS, including 16% of six-year-old boys. Tens and tens of thousands of young children with mild to moderate developmental delay or autism are on a scheme set up for permanent disability.
Dans le cadre du nouveau plan, le gouvernement cherche à améliorer l'accès aux réseaux de soutien existants, comme les médecins généralistes et autres professionnels de la santé qui gravitent autour de l'enfant. Des rapports sur le développement des enfants de 3 ans seront aussi remboursés directement par l'assurance maladie. Selon les cas, si un soutien supplémentaire est nécessaire, l'assurance maladie pourrait financer l'accès à des thérapies complémentaires, comme l'ergothérapie ou encore l'orthophonie. Si Mark Butler affirme que les États ont accepté un financement de 2 milliards de dollars, la première de l'État de Victoria, Jacinta Allan, considère que tous ne sont pas d'accord avec Canberra. En effet, certains États n'auraient pas été consultés avant l'annonce du nouveau programme. On l'écoute.
Like many states and territories, we heard about the proposed changes from the federal government when the minister made his address. So we stand ready to work constructively to go through the detail. And I think that's particularly important when we know that there are many families, particularly many parents today, who have got many questions.
Le premier de la Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, reconnaît avoir été informé du lancement de Thriving Kids. En revanche, il a déclaré qu'il ne signerait pas un chèque en blanc pour un programme dont il ne connaît pas encore les détails. Mais il a annoncé qu'il allait collaborer avec le Commonwealth pour mettre en place une solution durable de soutien. Pour l'instant, la coalition refuse aussi de soutenir ces nouvelles modifications sans en discuter un peu plus. Elle estime que des précisions sont nécessaires vu le manque de détails annoncés. Le programme Thriving Kids devrait être lancé à partir de juillet 2026.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu aux plus sensibles par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire au croupissant, la laissant éternellement belle au bois dormant, la laissant éternellement belle au bois dormant.
Cette voix reconnaissable parmi toutes ces Aotsagazan, bien sûr, là encore une chanson de 2023 du célébrissime album La Symphonie des Éclairs, ça s'appelle Les Dormantes. Le festival Now or Never bat son plein à Melbourne, il a débuté la semaine dernière et dure encore 5 jours. L'occasion de rediffuser cette interview avec la directrice artistique qui nous explique ce qu'est ce nouveau festival, c'est la 4e édition.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Nous sommes en studio avec Élise Perronnet, la directrice artistique du festival Now or Never qui se déroule à Melbourne du 21 au 31 août. Bonjour Élise.
Bonjour Marianne, merci de me recevoir.
Avec grand plaisir. Alors, on vous a déjà interviewé il y a 2 ans, c'était le lancement du festival, maintenant c'est la 3e édition, on va en parler. Now or Never, ce sont des idées, de l'art, des sons, des technologies. En somme, c'est un festival de nouvelles dimensions. Il y a de la musique, des installations, des panels de conversation, des projections de films, des collections, des artistes, j'en passe. 11 jours, 140 événements, 285 artistes. Élise, je viens de faire un résumé très sommaire du festival, vous ferez sûrement plus honneur à Now or Never en nous en parlant vous-même.
Bah oui, c'est une bonne, un bon résumé du festival, oui. 3e édition déjà. C'est un festival qui se répand dans toute la ville, qui vraiment transforme un peu tous les grands lieux publics de Melbourne ou du CBD, avec des œuvres un peu d'envergure. Il y a beaucoup d'événements gratuits cette année. On a fait beaucoup d'événements publics pour essayer de vraiment d'activer en fait la ville du mieux qu'on peut. Beaucoup de musiciens, d'artistes numériques, des créatifs, des journalistes qui viennent aussi parler un petit peu de la technologie, de la créativité, de toutes les problématiques que ça peut engendrer, dont on parle en ce moment, l'IA notamment. Mais nous, on essaye aussi de montrer le côté un peu positif finalement de la technologie. Donc par exemple, exemple, cette année, nous avons une projection, un vidéomapping sur la façade du State Library of Victoria, tous les jours, tous les soirs, à partir de 6h du soir jusqu'à 10h du soir, une projection d'un studio de Barcelone qui a créé cette œuvre justement avec l'IA et qui est très immersif aussi. Donc ça, ce sera projeté sur la façade de la State Library.
Comment vous avez choisi la programmation? Parce qu'il y a tellement de choses à voir durant ces 10 jours. Est-ce que vous avez fait le programme par date, par thème, par lieu?
Toujours par lieu. Je commence toujours par les lieux, c'est vraiment ce qui m'inspire. Aussi, puisque travaillant dans la ville de Melbourne, nous avons vraiment accès à des lieux assez uniques, et ça a toujours été un peu la ligne directrice du festival. Trouver des lieux et de les montrer sous un autre jour. Donc par exemple, un des lieux cette année où nous retournons au Royal Exhibition Building, qui est juste en face du Marlborough Museum. Mais cette année, nous allons présenter cette installation immersive du studio Péniquet, qui est aussi un studio de Barcelone, qui fait vraiment des installations absolument à grande échelle, vraiment intéressante. C'est une installation qui sera gratuite, qui va transformer l'intérieur du bâtiment à l'aide d'un immense gonflable rose monochrome. Donc les gens pourront rentrer à l'intérieur de cet espace. Nous avons aussi un programme en fait qui va accompagner cette installation. Donc pendant certaines matinées, nous allons travailler avec The Breath House, qui est un studio qui est connu ici à Melbourne pour justement des sessions de breathwork, vraiment de relaxation, etc. Donc ça, c'est 2 matins pendant le festival. Et nous avons aussi un programme nocturne avec des performances musicales, notamment d'une artiste, Roxy Moore, qui est française, qui vient de Montpellier, qui vient donc présenter une performance dans ce lieu au Royal Exhibition Building et aussi à Marlborough Town Hall.
Et on l'a dit, plus de 280 artistes. Vous avez parlé de 2 artistes de Barcelone, une artiste française. Il y a aussi évidemment beaucoup d'artistes locaux. Comment vous les choisissez? Comment vous les mettez à l'honneur?
Je sais ce qui peut marcher ici à Melbourne. Une fois de plus, je pense vraiment au lieu que nous avons. Donc, je viens de parler du Royal Exhibition Building, le Marlborough Town Hall, qui est vraiment aussi un lieu qui est assez aussi unique à Melbourne et que peut-être les gens ne connaissent pas forcément, parce que souvent, il n'y a pas souvent des événements artistiques ou culturels qui ont lieu dans cette salle. Donc, là aussi, nous allons présenter un artiste qui s'appelle Boris Hackett, qui est hollandais et qui fait vraiment des œuvres cinétiques, des installations vraiment à nouveau à grande échelle, et ça a été conçu spécialement pour le Marlborough Town Hall. C'est une œuvre cinétique de 20 mètres qui mêle son et lumière, et c'est en fait un énorme textile en fait flottant qui va être synchronisé en fait à la musique. Il va aussi créer une œuvre sur l'orgue, qui s'appelle le Grand Organ. Ça va être non seulement un peu le backdrop du programme musical, mais aussi une installation à part entière.
Là, vous venez de nous présenter beaucoup de nouveautés pour cette 3e édition. Est-ce qu'il y aura aussi des choses qu'on a déjà vues dans les 2 premières éditions?
Non, mais c'est toujours une fois de plus revisiter peut-être des lieux que nous avions présentés l'an dernier, mais sous d'autres formes.
D'accord, donc c'est vraiment une édition inédite, un nouveau festival Now or Never comme on l'a jamais vu. Sur notre antenne, en 2023, vous disiez, c'était la première édition de Now or Never, vous lanciez votre nouveau festival, vous disiez que votre ambition, c'était de vous insérer dans le programme culturel de Melbourne, qui était déjà riche. Paris réussi.
Oui, Melbourne, c'est pour ça qu'on aime cette ville. C'est une ville qui est vraiment charmante de ce côté-là, avec tellement de festivals toute l'année. Même le programme en hiver est aussi assez chargé. Oui, je pense qu'on a réussi, j'espère, en 2-3 ans, à vraiment s'imposer dans une autre optique et de présenter quelque chose de vraiment nouveau. Pour nous, c'est vraiment devenir une plateforme un peu globale pour des artistes locaux et internationaux qui utilisent la technologie dans leurs œuvres, dans leur création.
On sent l'humilité dans votre voix, Élise, mais en 2 ans quand même, il faut le dire, hein, 400 000 personnes attendues cette année, c'est le double de ce que vous attendiez la première année. 14,6 millions de dollars de recettes l'année dernière, 1000 emplois créés juste pour l'occasion. On peut quand même parler d'une véritable success story, non?
On verra cette année, on verra. J'espère que les gens viendront. On essaie de vraiment d'avoir un programme qui est accessible aussi dans un sens. Je parle vraiment de l'art et technologie. Ça peut paraître un peu hermétique peut-être au public, mais justement, on essaie vraiment de placer des œuvres vraiment au centre de la ville et des œuvres gratuites pour que les gens puissent vraiment venir et voir un peu Melbourne sous un nouveau jour peut-être.
Et justement, vous parlez de Melbourne, puisque c'est un festival qui se déroule à Melbourne. Vous avez une volonté à plus long terme de vous exporter au-delà de Melbourne ?
Je ne sais pas de s'exporter, mais nous travaillons vraiment en collaboration avec beaucoup de festivals qui sont à l'étranger, donc à Berlin, Sonar, un festival à Barcelone. Nous avons vraiment des réseaux, nous essayons de partager des œuvres entre les différents festivals. Effectivement, l'ambition dans le futur et pour l'an prochain aussi, c'est de créer des nouvelles œuvres ici et de pouvoir, avec des artistes locaux, et de pouvoir faire voyager ces œuvres justement à l'étranger et de les présenter dans ces festivals.
Vous avez évoqué l'édition 2026 et en 2023, vous nous disiez que ça faisait déjà un an et demi que vous travailliez sur l'édition 2023. Est-ce que vous avez déjà les yeux rivés sur l'année prochaine ou là, vous êtes totalement concentré sur le festival 2025?
Ah oui, ça paraît un peu dingue et un peu pas vraiment logique, mais effectivement, non, vraiment, c'est 2026 et des fois même déjà 2027, ce qui paraît un peu dingue, mais c'est ça, c'est de faire un peu la gymnastique de pouvoir continuer à se concentrer sur cette année et aussi de pouvoir réfléchir à l'an prochain. Nous avons des artistes qui vont venir cette année qui vont peut-être pouvoir présenter quelque chose dans le futur. Donc c'est vrai que ça se planifie longtemps à l'avance, ce genre de festival.
Et j'ai une dernière question, Élise, c'est sur l'empreinte écologique d'un festival. On sait que écologiquement, un festival, ça peut être assez désastreux, mais Now or Never essaie quand même de faire un pas en avant sur ce sujet.
C'est vrai que c'est un objectif aussi principal de la mairie de Melbourne d'avoir des objectifs pour limiter l'empreinte carbone Now or Never et certifié carbon neutral. Donc dans le cadre du Climate Active Program qui est financé par le gouvernement australien. Donc effectivement, c'est un travail assez laborieux avec tous nos partenaires de pouvoir faire l'inventaire de toutes les consommations énergétiques et consommations de manière générale après le festival. Donc tout ça est recensé dans un sens et ensuite est offset.
Élise Perronnet, vous êtes la directrice artistique du festival Now or Never, on le rappelle. Ça se déroulera à Melbourne du 21 au 31 août 2025. Merci beaucoup.
Merci Marianne.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Mon amour, dis-moi à quoi tu penses. Si tout ça a sens, désolé si je te dérange.
C'était la chanson qui représentait la France à l'Eurovision en 2024, Mon amour de Slimane. Le chanteur est arrivé à la 4e place, meilleur résultat français à l'Eurovision depuis la médaille d'argent de Barbara Pravist en 2021. Et c'est pour dire, hein, il est seulement le 4e représentant français à accrocher un top 5 depuis 2000. Cette année, Louane a décroché la 7e place seulement avec son titre Maman. Restez sur SBS French, messieurs, dames. Tout de suite, on va parler climat et crédit carbone ou comment être récompensé pour ces bonnes actions.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Nous sommes en studio avec Benoît Francou. Ben, bonjour.
Bonjour Marianne.
On s'est rencontrés à la conférence Lumière Verte lors de Bastille Day. C'était une conférence dédiée à la place des femmes dans le secteur de l'énergie. Et on a discuté de vous, Ben, de votre métier, de vos ambitions pour le climat ici en Australie. Vous faites ça depuis longtemps et notamment depuis bientôt 2 ans avec Aetium. Expliquez-nous le but de cette entreprise.
Alors Aetium, ça vient d'un entrepreneur qui s'appelle Christopher Ride, qui veut dédier le reste de sa vie au climat. Il a 2 ou 3 sociétés qui permettent de réduire ou de capturer le carbone. Des sociétés de technologie, des fermes, des fermes de kelp. Il a des projets aussi de stations de chargement de véhicules électriques dans l'arrière-pays. plein d'idées. Et alors, Etium, c'est s'écrit A-E-T-I-U-M. L'idée, c'est de démocratiser l'accès au crédit carbone, parce qu'aujourd'hui, le crédit carbone, qui est une sorte d'étape nécessaire à la transition net zéro, qui permet de financer des projets pour, par exemple, la reforestation, les énergies renouvelables, parce qu'il y a des émissions qu'on ne peut pas réduire. Tant qu'on voudra voyager, retourner à Paris en avion, eh ben, il y aura des émissions. On peut pas arrêter tout du jour au lendemain. Le marché du crédit carbone, il est là pour permettre une transition, pas asphyxier les entreprises qui ont des émissions, qui veulent les réduire, mais ça se fait pas du jour au lendemain. L'inconvénient du marché aujourd'hui, c'est que c'est un marché très fermé aux grandes entreprises. Et donc, du coup, si on n'implique pas ou responsabilise pas tout le monde, eh ben, ça va prendre beaucoup plus de temps.
Est-ce que vous ne visez que les entreprises, voire les entreprises qui vous paraissent tellement inatteignables que c'est votre seul objectif, ou aussi tout à chacun?
C'est plutôt l'inverse. On voudrait presque renverser la pyramide en permettant à tout le monde, donc vous, moi, les petites entreprises, de participer. On a créé une plateforme qu'on appelle Sustainability Platform. On a des actions climat tous les jours. Par exemple, conduire un véhicule électrique, avoir des panneaux solaires qui fonctionnent, avoir une parcelle de forêt qu'on maintient, qu'on fait grandir, qu'on entretient. Ça, c'est des actions de climat qui participent ou à la réduction carbone ou à la séquestration. Et en gros, si on essaye de comprendre d'où vient le carbone, les excès de carbone aujourd'hui, ça vient de la production d'électricité et du transport, à 80%. Et donc, en permettant à des propriétaires individuels ou des petites entreprises de transformer leur production d'énergie solaire ou leur kilomètre vert, entre guillemets, en véhicule électrique, on veut pouvoir leur donner des crédits carbone. Donc, ils génèrent des crédits carbone chaque année.
Être récompensé, voilà, en faisant une bonne action.
Exactement. Et chaque année, en vendant ces crédits carbone, ils auront un nouveau revenu qu'ils pourront utiliser pour améliorer leur installation, par exemple, ou acheter...
Donc, voilà. Ils peuvent transformer leur crédit carbone en argent.
Voilà.
Payé par Etium.
Oui.
OK. Et pour que ce soit très concret, une personne, un individuel tout seul et une grosse entreprise, plus de 500 salariés. Qu'est-ce que vous attendez d'eux en gestes écolo, et à combien de crédit carbone ça correspond?
Aujourd'hui, un système solaire qui fait à peu près 30 panneaux solaires, c'est 10 kilowatts. Ça peut générer $500 par an, à peu près, au prix du marché. Nous, on pense qu'en pouvant prouver notre intégrité, tout est enregistré sur la blockchain, donc c'est traçable de A à Z. Et à l'inverse du marché qui est prospectif, qui fait des estimations sur ce qui peut se passer, nous, on regarde toujours dans le rétroviseur. On ne reconnaît et récompense que ce qu'on peut mesurer. Et c'est un peu l'innovation, c'est qu'on peut prouver notre intégrité chaque année parce qu'on ne récompense que ce qui est observable. La première ressource d'une entreprise, c'est ses employés. Et il y en a beaucoup qui veulent montrer qu'ils ont du leadership pour l'action climat. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de moyens de le faire. On a créé une sorte de modèle privé de notre système qui permettrait à une entreprise de, par exemple, dire « je veux que tous mes employés, ils enregistrent leurs panneaux solaires, leurs véhicules électriques sur notre plateforme et qu'on puisse acheter les crédits carbone qu'ils auront générés à la fin de l'année ». Et du coup, ça crée une sorte en interne, un nouveau bénéfice dans employee benefit. Et ça permet à l'entreprise de reconnaître et de récompenser ces choix durables faits par leurs employés.
Une entreprise comme Etium, elle est bien reçue dans un pays comme l'Australie?
Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que le marché du carbone, il est tellement fermé que peu de gens comprennent. Donc, on a un gros travail d'éducation. Par contre, à tous ceux à qui on parle, qui sont dans cet univers, ils comprennent très bien où est-ce qu'on s'intègre. Notre objectif, c'est d'arriver à démocratiser l'action climat. C'est pas de dire, tiens, on veut faire de l'argent sur le marché du carbone. On est effectivement un marketplace, mais on veut permettre à la communauté, les gens, les petites entreprises, de participer. Parce que si on ne responsabilise pas tout le monde, eh ben, ça va prendre 10 fois plus de temps. On ne peut pas le laisser que au gouvernement ou que aux grosses entreprises qui se nourrissent d'administratifs. Pour soumettre un projet carbone, c'est un an de travail. Les audits, c'est hyper cher. Donc du coup, ça limite tout de suite le nombre d'entreprises qui peuvent jouer. Et du coup, ça empêche, ça asphyxie en fait tous les autres qui voudraient participer.
Et pour autant, au fil des années, vous diriez que ça va dans le bon sens?
Pour reprendre l'exemple de la forêt, par exemple, j'ai lu que depuis que les colons anglais étaient arrivés en Australie, la surface de la forêt a diminué de moitié.
Donc pas dans le bon sens.
Alors ça c'était
premier fait.
En prenant cette baseline. Mais depuis quelques années, c'est stable. Et ça, c'est légèrement en croissance. Et nous, c'est ce qu'on veut encourager au niveau de la forêt. Vous aurez sûrement des détracteurs qui disent « Ah, mais vous récompensez des forêts existantes. » Sauf que si on ne le fait pas, elles n'ont pas de valeur. Et si elles n'ont pas de valeur, ben, elles sont coupées. Prenons l'exemple de fermiers qui font le choix de couper des arbres pour mettre des bêtes. Ils le font parce que quand on fait les comptes, ils y ont tout intérêt. Si on commence à leur dire « Gardez vos arbres, mettez des clôtures et on va vous rémunérer pour les maintenir », ça va mécaniquement orienter les choix. Nous, c'est ce qu'on veut faire par rapport aux forêts. Et on travaille avec des NGO, des local councils, des state governments pour arriver à transformer les forêts en assets pour que ça soit valorisé comme tel et que qu'on réfléchisse à deux fois avant de faire des projets immobiliers où on coupe 200 hectares de forêt. Quoi.
Merci beaucoup, Ben Franco.
Mon plaisir.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Si on reconsidère les choses, je ne suis pas ton idéal. Écoute ce que je te propose, descends-moi de mon piédestal. Je ne suis pas visage. Toutes les femmes de ta vie en moi réunies.
Voilà, c'était un extrait de la chanson « Toutes les femmes de ta vie » interprétée, réinterprétée par Julien Doré, cette chanson des L5. Elle est dans son album « Imposteur » sorti en 2024. Il est 13h passé de 58 minutes sur SBS French, c'est l'heure du rappel des titres. L'Australie lève le ton face aux droits douanes américains. Australia Post a décidé de suspendre l'expédition des colis. L'opposition dénonce ce choix. Les États-Unis, eux, s'attaquent à la Chine et menacent de nouvelles surtaxes à hauteur de 200%. Cette fois, c'est l'exportation d'aimants qui pose problème. À Gaza, 20 morts, dont 5 journalistes dans des frappes sur un hôpital. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu déplore un accident tragique, je cite. Et enfin, en France, François Bayrou en sursis. Le Premier ministre va se soumettre à un vote de confiance des députés, un sacré coup de poker qui aura lieu dans 2 semaines, le 8 septembre prochain. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie, merci de votre fidélité. Vous pouvez la retrouver en intégralité ou en partie sur notre site internet sbs.com.au/french ainsi que sur toutes les plateformes de podcast comme Apple Podcasts, Deezer ou encore Spotify. Votre prochain rendez-vous avec l'information, c'est jeudi, même fréquence, même heure. Je vous souhaite de passer un très beau mardi après-midi. Merci beaucoup, messieurs, dames. Au revoir.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.